Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Québécois continuent d'éviter les grands centres. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Les Québécois ont moins envie de quitter les régions pour les grands centres. Ils sont plutôt portés à rester là où ils sont, ou alors à faire le chemin inverse. Ils le feraient d'ailleurs peut-être plus encore si les logements n'étaient pas si rares. On se souvient que, durant la pandémie de COVID-19, de nombreux Québécois ont déménagé des grands centres urbains vers la banlieue ou plus loin encore pour y trouver plus de place, de nature et de tranquillité. En l'espace de la seule année 2020-2021, par exemple, le solde migratoire arrivé-départ entre Montréal et le reste du Québec s'est conclu par une perte nette de 40 000 résidents au profit d'autres régions métropolitaines comme Sherbrooke, moins 2 300 personnes, Québec, moins 1 900 et Trois-Rivières, moins 1 400, mais surtout de municipalités et de régions plus petites, 32 000 départs nets, selon l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Ce brutal exode des grands centres est survenu au milieu de deux tendances en cours depuis plusieurs années et qui se sont poursuivies aussitôt la crise sanitaire passée. Premièrement, une diminution de la proportion de Québécois qui quittent leur région pour une autre chaque année. Ce taux de migration interrégionale a ainsi reculé du tiers, passant de 2,8% en 2001 à moins de 1,8% en 2024. Deuxièmement, une réduction du nombre de Québécois qui quittent leur région pour de plus grandes villes en même temps qu'augmente le nombre d'habitants de grandes villes qui partent pour de plus petites villes ou des régions. En guise d'exemple, les derniers chiffres de l'ISQ montrent que le taux de migration interrégionale nette de Montréal est graduellement passé d'un solde équilibré en 2002, autant de départs que d'arrivées, à une perte nette, à raison d'entrées équivalentes à 0,72% de la population totale, contre 1,23% de départs pour un recul net de 0,52%. Ce recul du taux migratoire net s'est aussi observé à Québec, de 0,44% à 0,21%, ou encore à Sherbrooke, de 0,63% à 0,25%, contrairement à Trois-Rivières, d'un taux équilibré à 0,38%, à Saguenay, de moins 0,9% à moins 0,24%, mais surtout au Québec, hors des grands centres, où la migration interrégionale est passée d'un taux net négatif, moins 0,18%, à un taux positif, 0,76%. Rester chez soi. Ces tendances sont sans doute attribuables à de nombreux facteurs, observait l'ISQ dans une analyse au début de l'année. Parmi eux, on cite l'explosion du télétravail, les coûts d'accès élevés à la propriété dans les grandes villes et la perte de dynamisme des centres-villes. De l'autre côté, l'économie et le marché de l'emploi se sont généralement révélés vigoureux en dehors des grands centres, a expliqué en entrevue au Devoir Francis Cortellino, économiste principal à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le plus grand espace, le loisir d'éviter la congestion routière et l'accès à de plus en plus de services sont aussi des atouts. Le vaste réseau des cégeps et le fait que les universités ouvrent de plus en plus de campus satellites en dehors des grands centres permettent aux plus jeunes de ne pas avoir à s'expatrier pour poursuivre leurs études, puis trouver de l'emploi. Et il y a ce mythe tenace qui veut que les retraités vendent leur maison en banlieue pour venir s'installer en ville, dit l'économiste. En fait, c'est l'inverse qui se produit depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes âgées qui quittent les grands centres pour aller vivre ailleurs que le contraire. peut-être parce que les gens veulent retourner à leur région d'origine. Dans les grandes villes, ces pertes migratoires internes restent largement compensées par l'accueil d'immigrants, de sorte que leur population continue de croître, note l'ISQ. Un frein au mouvement. Durant la pandémie, le prix moyen des logements a bondi de 50% en l'espace de deux petites années. Il avait fallu 10 années avant cela pour avoir la même augmentation, rappelle Francis Cortellino. Depuis, on est revenu à un rythme d'augmentation plus normal, environ 6% par année, mais les prix restent relativement élevés et les logements sont rares. Même si le Québec a grossi depuis, le nombre de propriétés à vendre dépassait les 82 000 en 2015, alors qu'il n'était que de 36 500 en avril 2025. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui doivent avoir envie de bouger vers une autre région ou un autre type de logement, mais qui ne le feront pas parce qu'ils ne trouvent pas d'option, observe l'économiste. C'était « Les Québécois continuent d'éviter les grands centres », un texte d'Éric Desrosiers paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.
Une dizaine de futurs médecins de la Nouvelle-Écosse formés au Liban. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 25 juin 2025 sur Ici Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse noue une entente de 5 millions de dollars avec une université du Liban pour que celle-ci forme des médecins de famille qui pourront ensuite travailler dans la province. Le premier ministre, Tim Houston, a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'entente avec la Lebanese American University à Beyrouth pour la formation de 10 médecins qui seront prêts à s'installer dans la province au cours des 5 prochaines années. La Nouvelle-Écosse accueillera 2 nouveaux médecins libanais pour chaque année de l'entente. L'enveloppe de 5 millions de dollars servira à financer leur résidence médicale ainsi que leur accréditation et les coûts liés à leur déménagement au Canada. En retour, les médecins devront s'engager à travailler dans la province pour 3 ans. Le registraire du Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, le Dr Gus Grant, dit que c'est la première fois au pays qu'une telle entente est ratifiée. Il dit avoir eu l'occasion lui-même de regarder sous le capot du programme de médecine libanais pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences du système de santé de la province. J'ai pu me convaincre qu'il s'agit de médecine d'excellence, ajoute-t-il. Le Lebanese American University, à Beyrouth, est une université américaine accréditée en vertu d'une charte de l'État de New York. Le partenariat découle d'une mission de recrutement au Liban en 2023. Le Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a, depuis, simplifié le processus d'accréditation des médecins libanais. Ce n'est que le début, promet le consul honoraire. Le consul honoraire du Liban à Halifax, Wadi Fares, parle de ce protocole d'entente comme d'une étape vraiment significative qui va permettre de construire des ponts durables entre la Nouvelle-Écosse et le pays du Moyen-Orient. Ce n'est que le début. Davantage de médecins libanais vont venir ici, promet-il. Le premier ministre, Tim Houston, rappelle que la Nouvelle-Écosse entretient depuis longtemps des liens avec le Liban. La région de la capitale, Halifax, compte d'ailleurs une importante population d'origine libanaise, souligne-t-il. La communauté libanaise a bâti une grande partie de cette ville. « Que serait cette ville sans la communauté libanaise ?» dit-il. Le gouvernement provincial a aussi développé des liens avec un deuxième établissement d'enseignement supérieur au Liban, l'American University of Beirut. Il a déjà apporté son soutien à deux médecins formés dans cette université privée qui exerce actuellement dans la province et à un autre qui devrait arriver sous peu. C'était une dizaine de futurs médecins de la Nouvelle-Écosse formés au Liban. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 25 juin 2025 sur Ici Nouvelle-Écosse.
L'Iraël Dauphin, l'artiste derrière Claude, l'infirmière d'Empathie. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Si l'Iraël Dauphin vogue dans le monde culturel québécois depuis plus de 10 ans, l'artiste multidisciplinaire, qui fait de la télévision et du cinéma, mais aussi de l'écriture, de l'art visuel, a vu sa popularité augmenter par son interprétation de l'infirmière Claude dans la série Empathie de Florence Lompré, diffusée sur Crave ce printemps. La série Empathie a connu un grand succès critique et populaire. T'a-t-on souvent apostrophé dans les dernières semaines? Oui, d'une manière tellement douce et belle. Je reçois tellement de témoignages d'amour de personnes de tous les horizons depuis que la série est sortie. J'ai quand même été dans plusieurs projets dans le passé, et là, c'est vraiment celui qui résonne le plus émotionnellement. Les gens sont tellement attachés à la série. Il y en a qui me disent « J'aimerais tellement que Claude me soigne ». Je me fais reconnaître plus que jamais et ça m'étonne un peu quand même, parce que depuis le tournage, j'ai tellement changé dans la dernière année. On a tourné ça en juillet, et moi j'ai commencé mon laser après. Les hormones continuent leur chemin. Mes cheveux ont poussé comme de la mauvaise herbe. Je trouve tellement que je ne me ressemble pas. Personnellement, beaucoup de mes proches m'ont indiqué que rarement ils n'avaient autant été investis dans une série québécoise. Les gens me disent « Je n'écoute pas beaucoup de télé québécoise. Je ne me sens pas représenté. J'accroche pas nécessairement dans le rythme. » Puis là, tout d'un coup, c'est unanime. On me dit « J'ai jamais autant été accroché à une série et engagé émotionnellement dans des personnages. » C'est vraiment la plume de Florence Lompré et la confiance qu'elle a donnée à tout le monde sur le plateau qui fait que ça rayonne autant. On s'est vraiment fait offrir des rôles en or et on s'est fait dire « ça t'appartient, fais-en ce que tu veux ». Donc, tout le monde a donné de l'amour à son personnage. J'imagine que tu as pu bénéficier de cette liberté, que tu as apprécié d'avoir les coudées franches pour jouer un personnage LGBTQ+. Quand t'as un gars straight qui joue un personnage gay, il joue un personnage gay. Si t'as un gars gay qui joue un personnage gay, il joue tout sauf le personnage gay. Il joue le personnage. Selon moi, ça ajoute tellement plus de dimensions d'avoir des vraies personnes queer. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est la chose que je vais le plus répéter dans ma vie. Cette idée-là de l'acteur qui se transforme davantage que les hommes blancs cis hétéronormatifs. On a des corps qui sont nos vaisseaux, qui nous aident à interpréter des choses d'une manière plus sensible et plus vraie. Ce n'est pas vrai qu'un homme straight va mieux jouer un personnage queer qu'une personne queer. C'est impossible. On va toucher à des canaux que ces personnes-là n'ont pas accès. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons interprètes et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de jouer ça. C'est juste une question de représentation et d'équité. Je me suis déjà fait refuser des rôles en me faisant dire que c'est un rôle queer, mais que j'étais trop queer pour le rôle et qu'ils préféraient avoir une personne straight passing pour le jouer. Soyez amis avec des personnes queer, puis vous n'allez pas engager des personnes straight pour jouer des personnes queer. Ce rôle-là, il n'a tellement pas été écrit d'une manière stéréotypée. Il y a une scène où on parle de mon identité de genre, puis c'est fait. OK, Claude, utilise Yel. Super, c'est fini. On a une petite joke le fun bien écrite et drôle. J'ai eu l'espace de renchérir là-dessus dans la journée de tournage. Après, c'est fini. Je suis juste l'infirmière qui est là et on n'a pas de drame sur mon identité. Ça fait du bien de sentir que j'ai une utilité et mon utilité, ce n'est pas d'être queer. Mon utilité, c'est d'être infirmière, c'est de pratiquer mon métier. Et dans bien des projets, mon utilité, c'était d'être queer. Tu fais aussi de la consultation au développement de personnages LGBTQ+ pour des productions. Qu'est-ce que les créateurs ont encore besoin qu'on leur dise? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise? Pour vrai, selon moi, il y a tellement d'angles morts chez les personnes hétéronormatives cis-straight. Je pense qu'il manque beaucoup d'empathie, malheureusement. Les personnes qui écrivent une histoire souvent n'ont pas l'intérêt à cœur de comment nos histoires sont racontées et comment on est représenté. Il y a des erreurs qui sont continuellement répétées, comme de sensationnaliser la transition comme étant la chose la plus importante dans la vie d'une personne trans. C'est fou comment je suis célébré pour les choses qui me rendent aussi détestable. Mon intégrité et le fait que je speak up. Les gens straight et cis sont comme « Oh my God, c'est tellement inspirant ton histoire et tu es tellement belle et rayonnante. » Mais dès que je parle et que je dis « Ouais, non, ça ne se fait pas », là, tout d'un coup, je deviens un ennemi parce qu'il y a beaucoup d'égo et ils ont de la difficulté à accepter qu'ils ne font pas les choses d'une manière sensible. On t'a d'abord connu pour ta participation à la télé-réalité Mixmania 2. Tires-tu de bons souvenirs de ton expérience? Pour toutes les personnes qui ont participé, c'est un trauma. Un trauma qui est quand même positif et qui a amené plein d'opportunités, mais il n'y a rien de normal à faire de la télé-réalité quand tu es adolescent. C'est absolument anormal de voir des gens s'évanouir devant toi, pleurer ou te faire dire des choses absolument terribles comme « Je veux un autographe de tout le monde, sauf toi ». C'est violent. Mais quelle expérience incroyable! J'ai rencontré des gens que je vais aimer pour le restant de ma vie. C'est des souvenirs qui sont à jamais gravés dans ma mémoire. Mais est-ce que je pense que les choses devraient être faites différemment pour les jeunes qui font de la télé-réalité? Absolument. Comme avoir un suivi psychologique. Aussi, une des choses vraiment particulières par rapport à mon parcours, c'est que si on regarde tous les projets que j'ai faits, on voit absolument ma transition étape par étape, ce qui est weird pour une personne trans, parce que généralement, on n'a pas full accès au « avant » d'une personne trans, genre on découvre qu'elle fait de la télé quand elle a fait une transition. On a vu toutes mes phases. En même temps, c'est nécessaire. Je ne vais pas arrêter de travailler parce que je ne suis pas au bout d'une transition. Info, les 10 épisodes sont diffusés sur Crave. Une seconde saison est déjà confirmée. C'était Lyraël Dauphin, l'artiste derrière Claude Infirmière d'Empathie. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.
De l'opportunisme de Donald Trump pour dissimuler ses contradictions, un texte de Fabien Deglise, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir. L'opportunisme est aussi évident qu'un mensonge ou une demi-vérité ancrée comme une tique dans la déclaration d'un trumpiste. Mercredi 4 juin, le président américain Donald Trump a, par décret, ordonné l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, ses collaborateurs et ses conseillers à la Maison-Blanche, afin de déterminer si les grâces présidentielles que le démocrate a signées, tout comme plusieurs de ses politiques, étaient valides juridiquement. Le geste politique, teinté par l'esprit de revanche affiché par le populiste depuis son retour au pouvoir, cherche à tirer profit de la publication récente d'une enquête exhaustive signée par un journaliste de CNN et un du site Axios, exposant la manière dont l'entourage de l'ex-président aurait cherché à dissimuler le déclin physique et cognitif de Joe Biden dans la deuxième moitié de sa présidence. Il fait suite également à la diffusion sur son réseau social par Donald Trump, durant la fin de semaine, d'une théorie du complot qui court actuellement dans les bas-fonds du mouvement « Make America Great Again », MAGA, et que le nouveau président a décidé d'embrasser. Le récit évoque l'exécution en 2020 de Joe Biden, que l'on aurait alors remplacé par un clone robotique pour dissimuler son inaptitude mentale à gouverner. Oui, en 2025, sous Donald Trump, la politique américaine a atteint ce niveau d'absurdité oscillant entre délire et dangerosité. Or, le républicain est bien placé pour savoir que sa tentative de percer le pouvoir exécutif américain en déployant le pouvoir judiciaire, devrait rester vaine. Lui et son entourage ont largement invoqué par le passé l'immunité relevant de l'exécutif pour esquiver des poursuites ou nuire à des enquêtes, comme celle parlementaire, portant sur l'insurrection du 6 janvier. Mais sa quête, visant à effacer l'histoire pour mieux imposer la sienne, ne devrait pas prendre fin de sitôt, tant elle alimente le climat de punition et de châtiment qui galvanise ses partisans et éloigne au passage les regards des nombreuses décisions discutables qu'il a prises à ce jour, notamment en matière de pardon. Rien que dans les dernières semaines, il a fait entrer le pouvoir de ses grâces dans la sphère du clientélisme plutôt que du pardon, en accordant sa clémence à deux anciens politiciens républicains, à un ex-cadre d'une maison de retraite et à un couple de la télé-réalité, tous condamnés pour fraude fiscale et détournement de fonds. Des proches de ces criminels font partie des cercles trumpistes. La mère de l'un d'eux a même organisé une collecte de fonds et récolté $1 million pour la campagne présidentielle de Donald Trump. Le nouveau président a également gracié un shérif d'extrême droite qui avait mis en place un système de pots de vin pour distribuer des postes de shérif dits « adjoints auxiliaires » à des notables de son coin de la Virginie. Mais pour le nouveau président, lui-même condamné au criminel il y a un an, le scandale se trouve ailleurs. Un public trompé. Ces derniers mois, il est devenu de plus en plus évident que les conseillers de l'ancien président Biden ont abusé du pouvoir des signatures présidentielles en utilisant un stylo automatique pour dissimuler le déclin cognitif de Biden, écrit Donald Trump dans son décret. Ce complot constitue l'un des scandales les plus dangereux et les plus inquiétants de l'histoire américaine. Le public américain a été délibérément trompé sur l'identité des détenteurs du pouvoir exécutif, alors que la signature de Biden était apposée sur des milliers de documents pour opérer des changements politiques radicaux. Déjà, dans les premiers jours de sa présidence, Donald Trump a attiré les projecteurs sur ce stylo automatique utilisé par les présidents américains dont il a fait usage durant son premier mandat. L'outil qui reproduit la signature du chef de l'État sert, en l'absence de l'occupant du bureau ovale, ou pour faire face à une certaine quantité de lettres, mais aussi de lois et même de pardons présidentiels. Selon le républicain, son usage par Joe Biden rendrait désormais nuls et non avenus les pardons préventifs qu'il a signés pour protéger plusieurs membres de sa famille, dont son fils Hunter Biden, et quelques figures publiques ayant osé défier Donald Trump, dont le responsable de la santé publique Anthony Fauci, le général à la retraite Mark Milley et les anciens membres du comité d'enquête sur le 6 janvier, Liz Cheney et Adam Kinzinger. Donald Trump a menacé à maintes reprises de les poursuivre pour les jeter en prison. Avec l'enquête qu'il vient de lancer, le populiste frappe à nouveau sur ce même clou en cherchant désormais à prouver que toutes ces signatures, réalisées avec ce que la Maison-Blanche appelle l'auto-peine, se sont jouées dans l'illégalité en raison du déclin cognitif de son prédécesseur. Il va toutefois lui être très difficile de prouver que Joe Biden n'était pas au courant de ces faits ou que cela a été fait dans son dos, ont rappelé récemment plusieurs spécialistes de la Constitution américaine, dont Bernadette Miller, professeure à la faculté de droit de Stanford, qui précise dans les pages du magazine Time que cette Constitution n'exige même pas que la grâce soit écrite. C'est donc l'idée même de l'illégalité d'une signature faite par un stylo automatique qui devient, dans ces circonstances, nul et non avenu. D'ailleurs, l'ex-président a vivement dénoncé ces attaques en les qualifiant de ridicules et fausses. Soyons clairs, j'ai pris ces décisions pendant ma présidence. J'ai pris les décisions concernant les grâces, les décrets, les lois et les proclamations, a-t-il dit par voie de communiqué. Peu importe, dans son décret, la Maison-Blanche met ainsi la table pour contester la validité de 1200 documents présidentiels et de la nomination de 235 juges fédéraux, en plus des grâces accordées par Biden, et ce, en suivant la trajectoire habituelle du Trumpisme, qui consiste à faire pression sur des réalités qui entrent de manière flagrante en contradiction avec les faits, dans l'espoir d'atteindre, avec l'appui des foules, que le projet mobilise, un point de rupture. C'était de l'opportunisme de Donald Trump pour dissimuler ses contradictions, un texte de Fabien Deglise, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir.